Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Tout de suite, votre émission radioactive avec bien évidemment vos chroniqueuses préférées. Lana.
Coucou.
Anouk.
Hola.
Et Enola.
Bonjour.
Tout de suite, on est parti avec Enola et son amour inquantifiable pour Disney.
Aujourd'hui, je reviens avec un petit Disney sorti en 2011. L'histoire de ce film s'étend sur une trilogie. Blue, un perroquet bleu d'une espèce rare, quitte sa ville du Minnesota pour s'aventurer au cœur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Comme il n'a jamais appris à voler, l'aventure grandiose qui l'attend au Brésil va lui faire perdre toute... va lui faire perdre quelques plumes, excusez-moi. Heureusement, ses nouveaux amis sont prêts à tout pour réveiller le héros qui est en lui et l'aider à prendre son envol. Ce film n'est autre que Rio. Est-ce que vous l'avez déjà vu ?
Ouais, mais je crois que j'étais toute petite.
Ouais, pareil. Je devais avoir 9 ans.
Moi, je l'ai déjà vu aussi, oui.
Ok. Et si oui, est-ce que vous l'avez aimé ?
Bah, d'après mes souvenirs, ça m'a pas déplu.
Bah, moi j'ai trouvé que genre, le thème choisi, en général, genre du... Waouh, j'arrive plus à parler, excusez-moi.
T'inquiète, ça va aller.
Des fêtes et tout, au Brésil et tout. J'ai trouvé que c'était assez sympa, genre ça change bien des Disney princesses qu'on connaît.
Bah, pour ma part, ouais, c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé, parce que, comme vous le savez déjà, les filles, peut-être, si vous vous en rappelez, j'ai pas vu tant de Disney que ça dans mon enfance, et ça, c'est un des Disney avec lequel j'ai grandi, donc je l'ai un petit peu poncé. Enfin, moins que les Aristochats, hein, quand même. Mais oui, franchement, pour moi, c'était vraiment un super film. C'est vrai que Lana a raison, pour son originalité aussi, c'est assez sympa, ça change un petit peu des princesses qui sont sauvées par leur prince charmant du haut de leur tour, enfin bref.
Oui, après il y a aussi les musiques qui sont pas mal. Je vais pas vous en présenter aujourd'hui parce que je préfère vous les laisser découvrir, mais c'est vrai que Rio, si vous êtes plutôt fêtard, c'est vrai que c'est un bon film pour les enfants comme pour les adultes, comme je dis toujours. Eh bien, merci les filles. Maintenant, je vais vous laisser avec la fabuleuse Lana.
Alors, merci beaucoup Enola pour cet accueil. Aujourd'hui, j'ai eu un peu de mal à trouver un sujet de chronique à vous présenter. Je me suis beaucoup questionnée, je me demandais quel sujet pourriez vous intéresser. Puis finalement, quand j'ai vu Julie endormie devant son livre pour la deuxième fois, une illumination. Sujet aujourd'hui, c'est pourquoi lire nous donne envie de dormir. Alors que, par exemple, faire un exercice de maths nous donne absolument pas ce ressenti. Alors déjà, avant de commencer, quelles sont vos hypothèses ?
Moi, je pense que c'est juste le fait que les yeux ils fassent le même mouvement tout le temps. Okay. À un bout d'un moment, ça doit se fatiguer, puis le cerveau, le geste, il est pas nouveau, donc il réfléchit plus. Et donc, je pense qu'il doit...
Tu survoles juste les mots.
Il part.
Tu dis les mots.
Moi, pour ma part, je ne sais pas. Parce que je ne me suis jamais endormie devant un livre.
Tu vas l'apprendre après.
Ouais, c'est bien ça.
Et pour ma part, franchement, je pense que ça dépend. Ce n'est pas forcément un rapport au livre, même si toi, tu en as trouvé un, évidemment. Parce que oui, si je me suis endormie devant mes bouquins, c'est pas pour rien. Je m'endors absolument partout, d'accord ?
C'est un exemple précis.
Devant un jeu vidéo, un film, quoi, n'importe quand. Non, je peux dormir n'importe quand, n'importe où, parce que je suis claquée en permanence.
Après, là, c'est pas... l'histoire de pourquoi Julie précisément s'endort devant son livre,
oui,
même si elle pourrait dormir
ça
partout.
Ça reste le fait que si moi je m'endors partout, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent s'endormir aussi comme ça. Et du coup, le fait de s'endormir devant son bouquin, ça peut être aussi ce signe-là.
C'est pas le sujet de la chronique.
Je m'en fous.
Moi, c'est pourquoi particulièrement devant un livre.
Ouais. Vas-y, explique-nous.
T'es plus fatiguée. Oui, j'allais l'expliquer. Alors, tout dépend déjà, comme Anouk l'a dit, de l'effort de stimulation que ton cerveau perçoit quand on lit. Donc, c'est en rapport avec le cerveau de comment il lit les informations.
Et je suis trop forte.
Ouais. Donc, quand on lit, on mobilise bien On mobilise bien sûr notre cerveau. Il faut comprendre les mots, construire du sens, parfois imaginer des scènes. Donc ça fait un effort quand même un peu important. Mais cet effort a une particularité, il est presque monotone. Genre, c'est la même chose. Tu vas pas y avoir un élément de surprise dans ton livre. Enfin, c'est toujours des mots sur une page.
Oui, c'est sûr.
Après, l'intrigue.
L'intrigue peut avoir des surprises.
Donc, le rythme, il ne change pas beaucoup. Du coup, le résultat, le cerveau s'adapte rapidement et entre dans un état de fonctionnement stable. Il est neutre.
Ok.
Alors que pour les maths, le cerveau est confronté à un problème. Il doit chercher, tester, se tromper, recommencer la routine, quoi. Cette activité sollicite fortement le cortex préfrontal. Donc, c'est la zone devant le cerveau. La zone impliquée dans la réflexion et la prise de décision. Donc là, ce n'est pas les mêmes zones du cerveau qui sont mobilisées. Il y en a qui sont plus... il y a des zones qui fatiguent plus que d'autres, selon l'effort. Mais surtout, cet effort est instable. On peut être bloqué pour puis trouver une piste, puis douter à nouveau. Cette incertitude maintient le cerveau en alerte. Le corps active alors le système sympathique lié à l'attention et dans une certaine mesure au stress. Donc, t'es juste rarement détendu quand tu fais des maths. En tout cas, moi, personnellement, ouais. C'est pas ça qui me vient en premier. Et ça peut expliquer pourquoi on reste bien éveillé. D'ailleurs, petit aparté, si vous avez du mal à vous endormir, vous pouvez tout simplement prendre un vieux livre ennuyeux le plus possible et le lire le soir. Cette technique est testée et approuvée. Et d'ailleurs, il y a un livre spécialement pour ça où c'est... J'ai pas réussi à le retrouver, mais c'est un livre où il parle que de sujets très ennuyeux pour que quand tu le lises et tout le soir, t'arrives à mieux à t'endormir.
Ça peut être pratique.
Je sais pas si vous en aviez déjà entendu parler.
C'est une façon de voir les choses.
Toi, Julie, qui a du mal à dormir la nuit,
tu devrais essayer, ça devrait être super efficace.
Oh là là, une nouvelle technique que j'ai pas testée, tiens.
T'as jamais testé ?
Non. Lire un livre juste parce qu'il est ennuyeux pour dormir ? Non, non.
Ah ouais ?
Non.
Et juste lire un livre le soir.
Oh oui, mais ça m'endort pas. Fin...
Ah bon?
C'est totalement contradictoire ce que je suis en train de dire, mais non, ça m'endort pas spécialement.
Après, ça dépend. S'il y a un livre aussi qui est un peu trop attractif, genre...
Captivant.
Si tu te mets un peu trop dans l'histoire et tout, tu peux avoir l'effet inverse.
Et lire jusqu'à 2h du matin.
Tout à fait.
On sent l'expérience qui parle.
Non.
Non, à peine.
Moi, personnellement, ça m'arrive pas de m'endormir... devant un livre, comme l'a fait Julie tout à l'heure. Mais c'est ok.
Mais c'est vrai que le fait que ça soit tout le temps le même mouvement, moi je le vois avec le crochet. Quand je fais un truc où c'est que des brides ou que des points serrés, un bout d'un moment, tu tombes parce que c'est toujours le même mouvement c'est et ton cerveau, il réfléchit plus.
D'ailleurs,
ça
me fait penser à quelque chose. Les gens qui sont dans des usines, qui font le même geste tout le temps. Est-ce que, du coup, ils sont plus fatigués mentalement? Pas forcément physiquement.
Faudrait rechercher, puis on fait une prochaine chronique de ça.
Merci beaucoup, les filles, pour vos petites réponses.
Bon, en parlant de cerveau, moi j'ai envie de faire bosser un petit peu votre mémoire. Est-ce que vous êtes prêtes ? Parce que c'est le comeback d'un événement dont on a déjà parlé. Voyons voir. Si je vous dis... Un des plus grands événements de jeux vidéo se déroulant tout près d'ici. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Pictadome.
Non.
Non plus.
Bien tenté, mais non.
Et Nola ?
Moi, la Game Assembly.
C'est exactement ça. Bon, désolée, Lana, t'as pas pu répondre, hein ? Exactement. Donc, c'est bien évidemment la Gamers Assembly, ou GA, parce que c'est un petit peu long à dire, donc on a un petit peu la flemme ici, hein, quand même. Donc, créée en 2000 par l'association Futuroland, d'ailleurs, pour la petite anecdote, je connais du monde dans le staff, parce qu'ils embauchent, du coup, pas vraiment des bénévoles pour organiser ces événements qui sont vraiment monstres en organisation. Je connais quelqu'un qui ils font des conférences et des visios, etc. depuis déjà 3 ou 4 semaines, alors que c'est après. Et là, toute cette semaine, ils sont bloqués pour tout organiser. Donc c'est un travail monstre. On les remercie d'avance. Bref, je m'égare un petit peu. Elle est au départ un simple rassemblement de vieux copains, des câbles dans tous les sens, une organisation douteuse faite à l'arrache juste pour s'échanger quelques jeux. Après de nombreuses péripéties, elle réunit désormais un grand nombre d'accros aux jeux dopés à la Red Bull. Je plaisante bien sûr, hein, y a pas que ça.
Il y a des monsters aussi.
Exactement. Bref. Pour vous donner un petit ordre d'idée, en 2015, plus de 1600 joueurs PC et consoles inclus ont été référencés et ont atteint 300 000 euros de dotation à la fin du tournoi. Parce que oui, évidemment, ils organisent des tournois. On y retrouve aussi donc, plein de partenaires de dingue avec des événements de folie comme en 2015 avec la finale de la saison 1 de StarCraft 2 World Championship Series sponsorisée par Blizzard Entraînement qui est le studio à l'origine d'Overwatch si vous connaissez. Personnellement, j'ai poncé ce jeu. Bref, on compte en moyenne 2500 joueurs et 25 000 visiteurs par...
Ah ouais, quand même.
Ouais, c'est quand même pas mal par événement. Sachant que, pour ceux qui ne savent pas, ils ont, depuis quelques temps, ils mettent le cosplay en valeur. Et toutes les personnes, tous les visiteurs venant en cosplay, avec la référence pour être sûr, évidemment, pas juste une wig en disant « Non, mais c'est mon OC, ça passe !» Non, il faut quand même un minimum de travail dessus. La place est littéralement offerte. On peut y aller gratuitement. Oui, Lana ?
Oui, t'as dit OC. C'est quoi OC ?
OC, c'est Original Creation. C'est okay. Les créations de personnages des artistes.
Okay. Et c'est que elle est douée, hein. Elle connaît tout.
Bah, il faut bien connaître son sujet.
Oui, c'est vrai.
Donc, pour en revenir à cette année, on fête le 26e anniversaire de la GA. Donc, rendez-vous du 4 au 6 avril, donc littéralement le premier week-end de nos vacances, au parc des expositions à Poitiers.
Et aussi vieille que ma sœur.
Super. Allez, tout de suite, on part avec Anouk.
Bon, moi, je vais parler d'un tout autre sujet. Pas de Disney, pas de trucs avec le cerveau, pas de... On se casse pas la tête. Je vais vous parler du truc le plus vendu au monde, je pense, et que tous les enfants, bien sûr, adorent, c'est les...
Bonbons.
Bravo les filles.
Je l'avais pas, moi. Et oui, parce que bah, ces bonbons, c'est qu'ils sont vendus par milliers, mais d'où viennent-ils exactement ? Parce qu'ils existent depuis plusieurs millénaires. Alors, pas les bonbons qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr, mais le début des bonbons a été créé par les Égyptiens. C'est un peu... c'est des bonbons un peu au miel. C'était la texture la plus facile à travailler, la plus facile à enrober autour de fruits qui ont donné des bonbons pour l'époque, qui n'est plus exactement ça aujourd'hui.
Maintenant, comment t'appellerais ça ?
Bonne question. Je sais pas, des fruits enrobés, des bonbons.
Des fruits au sucre, genre les pommes d'amour.
Que dans les pays asiatiques tels que la Thaïlande, il y a beaucoup de fruits enrobés dans du sucre. Mmh. Mais c'est trop bon.
Bah, je pense qu'ils ont gardé un peu le truc de enrobé dans du sucre.
Mais après, je connais pas le nom précisément. Mmh.
Mais t'es pas restée là-bas assez longtemps pour le savoir ?
Non.
Ah. Bah ouais. Oh là là.
Mais le tout premier bonbon reconnu, vraiment reconnu, il a été créé dans la cour d'Alexandre le Grand. C'était au 4e siècle, si je me souviens bien, avant Jésus-Christ. C'est les Perses qui avaient découvert une plante qui est appelée cannamiel. C'est une sorte de roseau qui, dedans, qui donne du sucre, qui est pour eux du miel. Ça, c'est un peu la même texture, etc. Et donc, c'est avec ça que ça a été créé. Et puis, aussi, il y a les artisans arabes qui ont pu transformer le sucre en pâte, sucré. Du coup, ça a pu donner tout ce qui est... ils ont pu texturer des choses avec les épices qu'ils ont là-bas, avec les fruits aussi, ce qui a pu donner des sucars. Je sais pas comment ça se prononce.
Ah.
Et qui donne aussi le mot sucre. Ça vient de là, en fait. Mmh. Donc voilà, donc les premiers bonbons viennent un peu de partout, puisqu'ils ont été découverts un peu globalement un peu partout dans le monde. Et puis, au 19e siècle, il y a le sucre de betterave. C'est beaucoup utilisé dans la cuisine, un peu healthy, entre guillemets. Même si c'est pas
même
trop...
Même pas, non. C'est vraiment le sucre blanc de base.
Oui. Ah oui.
pas bête.
Parce qu'après, t'as le sucre de canne.
T'as le sucre de canne qui est plus cher.
Je sais pas si c'est plus cher, mais c'est sucre roux, en gros.
Le sucre roux, non, je sais pas. Bonne question à chercher. Du coup, la confiserie devient plus populaire avec ce sucre de betterave parce que bah, c'est beaucoup plus facile à manipuler, c'est beaucoup plus vendable et puis c'est beaucoup plus popularisé. Et t'as les premières usines qui font des berlingots, les sucettes, les caramels comme on connaît, les nougats et les bonbons acidulés qui, bien sûr, ont envahi le monde dans leurs vitrines, chocolatiers, etc. Et en France, vous pensez qu'il y a combien de variétés différentes globalement de... Alors, bien sûr, il y a beaucoup plus de variétés que ça, mais en global, il y a combien de variétés qui se regroupent à peu près?
Bon, on a vu ton texte tout à l'heure.
Donc j'allais dire, je sais pas, mais j'ai le truc sous les yeux, donc bon. Et Nola, tu l'as lu ou pas?
Oh, la
synchronisation.
Ouais, merci. Moi, je sais pas, il y a le chiffre, mais moi, je pense que j'aurais dit encore moins. Ah ouais, moi, je pense que j'aurais dit 5 ou 10. Je sais vraiment pas.
Et bah, il y en a 20.
Ouais, putain.
Voilà.
Ouais. Excusez-moi.
Par variété, c'est pas forcément chaque bonbon différent. C'est vraiment, t'as les réglisses d'un côté, ouais. t'as les bonbons les bonbons un peu gomme, t'as les crémas qui font aussi une grosse...
Vraiment...
En fait, c'est ce qui se ressemble. Après, oui, bien sûr, t'as plein de bonbons, t'as les Scooby-Doo, les langues à chat, les langues de chauffe, pardon. Enfin, franchement, il y a plein de trucs. Et... il y a aussi plus de 600 spécialités régionales.
Ah, ouais. Oh, wow.
Donc chaque région a vraiment des bonbons de façon différente. Et ça, c'est en France. Et donc voilà. Et il y a trois sortes de bonbons, entre guillemets, qui regroupent tous les bonbons. C'est le salé. Alors, vous avez trouvé ça un peu bizarre de dire qu'un bonbon salé, mais le caramel salé, le bonbon caramel salé fait partie des bonbons salés. Et je pense même que je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres, beaucoup d'autres.
Non, je pense pas non plus.
Il y a l'acide, bien sûr, et il y a même l'alcoolisé.
L'alcoolisé?
Ouais.
Ah oui, ouais.
C'est bon pour vieux. j'ai pas de nom exactement.
Non.
Mais par exemple, dans les chocolatiers, ils en font vachement, par exemple, avec les chéris.
Ah oui.
J'ai trouvé, pour tes bonbons salés. Il y a Haribo qui a sorti des bonbons qui s'appellent Haribo Salty Pretzel. C'est genre des espèces de micro-bretzels salés. Ah. Haribo.
Ouais, Haribo, ils ont tout fait.
Ah oui, vraiment. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. Mais pourquoi pas? Franchement, faut tenter. Faut tenter.
Et pour finir, on va finir sur quelques gros chiffres quand même. C'est de savoir combien il y a de bonbons vendus en France.
Oh là,
il doit y avoir des caisses. On est un des plus gros consommateurs de bonbons.
Aïe, 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 aïe.
On est des gourmands.
On est à 214 500 tonnes.
Hein? Pardon?
Par an.
Par an.
Ah.
Annuellement, ouais.
Voilà.
Wow. On est des gros mangeurs de bonbons.
Franchement, oui. Je pensais que ce serait même plus que ça, tu vois.
C'est déjà pas mal.
Ah oui. Non. Mais.
Et alors, je sais plus si c'est en France ou dans le monde, mais il marque 13 600 entreprises qui produisent des bonbons. Donc je pense que c'est plutôt au niveau européen.
Oui, au moins européen. Parce que dans la France, ça fera un petit peu beaucoup quand même.
Ouais. Ah.
Oui. Moi, personnellement, je pense que je suis max par an 500 grammes.
Ah ouais?
La boîte que je t'ai achetée, tu n'as toujours pas fini.
Julie, pour mon anniversaire, m'a offert une boîte d'un kilo de bonbons.
C'était en janvier, d'accord?
C'était en janvier, je ne suis pas à la moitié. J'essaye tous les jours d'en prendre un et tout.
Carrément, c'est une quête quotidienne.
Je n'y verrai jamais la fin.
Et ce qu'il faut, c'est que tu les caches un peu partout dans ta maison. Dès que tu tombes dessus, tu le manges.
Tiens.
Oh, un dans les chiottes.
Oh non. Oh pitié.
Non mais j'ai des animaux de compagnie donc je peux pas trop faire ça.
Ah ouais, c'est vrai. Faudrait éviter que le...
Ouais, franchement les chiens et les bonbons, c'est pas une très bonne idée.
Non, c'est pas...
Non,
j'avoue,
pas ouf.
Non mais t'as des frères et sœurs ou pas, je sais plus.
Bah, j'ai une petite sœur mais elle aime pas ça.
Ah ouais.
Elle aime pas le sucré. Elle déteste tout ce que t'as dit. Elle déteste le miel, les fruits quand c'est trop sucré, les bonbons, il y a que le chocolat. Mais
ouais.
Elle va pas les manger quoi, les bonbons.
Bah au moins tu les as pour toi.
Ouais, c'est vrai.
Mon frère, c'était pareil, il aimait pas les bonbons pendant longtemps, du coup je raflais tout. Genre, tu sais, Halloween, il ramenait des trucs, je ramenais plein de trucs, genre des saladiers pleins et tout. Puis il revenait avec avec son saladier en mode bon, bah tiens, je les mangerai pas, j'aime pas ça. Mais pourquoi t'en as pris? Parce que. Bon, bah d'accord.
Donc voilà, pour un peu l'origine du bonbon qui vient quand même canne à sucre, bonbon au miel, et puis les dragées ont fait la suite aussi parce qu'il y a eu beaucoup. Enfin, après le bonbon au miel, ça a été ouais. dragé. Puis après, donc une grosse popularisation de bonbons complètement différents. Oui ?
Je me demande, est-ce que vous seriez capable de donner soit votre top 3 de bonbons préférés, soit votre bonbon préféré si vous arrivez à le définir ?
Moi, je suis plus sur les piquants. Ah, je kiffe les bonbons ouais. piquants. Baf, si on parle d'avant, j'aimais beaucoup les crocodiles.
Ah ouais.
Ça, c'était trop bon.
Tu peux plus en manger maintenant.
Non, il y a la gélatine de porc. Ah oui, le problème des bonbons d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gélatine de porc.
Aussi avec les bacs, c'est pas forcément
bon. Et les bacs, c'est pas forcément bon.
C'est dans quel truc que t'avais trouvé un truc, une nouvelle gélatine ou je sais plus quoi là,
quand Ah, c'est dans les. Bah, en fait, c'est certains bonbons qui comportent. Enfin, en fait, aujourd'hui, les bonbons sont catégorisés non végétariens à partir du moment où il y a de la graisse de moustique ou voilà. toute chose appartenant à moustique.
Graisse de moustique. Voilà, on a cherché des trucs l'autre fois à Auchan avec vraiment, on regardait les compositions s'il y avait de la graisse de moustique.
Après, c'est pas forcément écrit sur la boîte, mais c'est à rechercher ouais. ultérieurement sur internet, etc. Mmh. Parce que c'est une infime partie du bonbon et tout n'est pas marqué. Mais voilà.
Ça donne pas envie.
Et toi, Lana ? Ton top préféré de bonbons ?
Moi, je suis pas trop bonbon en général. Mais du coup, je sais pas si c'est un bonbon. Je pense que c'en est un quand même. Les nounours chocolat avec de la guimauve à l'intérieur.
Ah, oh, les nounours
chocolat. C'est mon truc préféré au monde.
Attends, je t'en achèterai du coup.
1 kilo.
Ma maman, elle adore ça. Et du coup, ma grand-mère, dès qu'elle va chez le chocolatier, elle en prend.
Ah, c'est trop mignon. Et toi, Nola, ton top préféré de bonbon ?
Moi, je sais pas trop. Parce que on est.
Le premier bonbon qui te passe à l'esprit, là.
Bah, les Scooby-Doo.
Les Scooby-Doo.
Les premiers qui me passent à l'esprit, c'est les Scooby-Doo, mais en soi, on mange les boîtes mixtes.
Ah oui, ouais.
Donc en soi, on a un peu de
comme
tout.
Ce que j'ai acheté à la maison.
ou alors les Schtroumpfs.
Ah ouais.
Qui bah, pique ou pas.
Je te rejoins. Parce que pour le coup, pour mon top, vraiment, mes deux bonbons préférés, c'est les Schtroumpfs et les nounours, d'accord. C'est vraiment le truc, genre tu m'en donnes, je peux en bouffer en rafale.
Les nounours guimauve ou gélatine?
Gélatine, mais guimauve, j'adore aussi. Franchement, si j'ai un top 3, je pense que c'est les nounours gélatine, c'est les. Ensuite, les. J'arrive plus à parler. Les schtroumpfs et les nounours en guimauve, parce que c'est vraiment tellement bon.
Mais moi, je pense que mon top plus, c'est les langues de chat.
Ah oui, c'est vrai.
C'est une dinguerie.
Ah, je me rappelle, on t'en avait trouvé des veggies.
Ouais, il y a Rainbow qui a sorti une collection
végétarienne. Donc, la petite Anouquette, elle pouvait en manger.
Mais moi, j'ai quand même la question ultime. Ouais. Quel est le pire bonbon qui existe ?
Je pense qu'on l'a tous.
1, 2, 3, le réglisse.
Quoi ?
Non, c'est le 45.
Mais c'est du réglisse, ça aussi.
Ah ouais.
voilà.
On est dans la même vibe.
Mais le réglisse, vraiment, je peux pas. Je me rappelle encore mon
pire,
père...
c'est les 45.
Je me rappelle mon père qui achetait des sacs entiers, genre, tu sais, les gros paquets de bonbecs entiers avec que du réglisse dedans, ou même les boîtes composées avec du réglisse. Et en fait, tu pouvais même pas manger les autres parce que t'avais le goût du réglisse qui s'était imprégné sur les autres bonbecs. C'était horrible.
C'était aux cousinades, notre grand-mère, quand on était... Parce qu'on fait plus les cousinades, tout le monde est devenu trop grand. Et du coup, elle nous achetait des boîtes Haribo Mix. Et sauf que tous les ans, on lui disait qu'on n'aimait pas ça. Elle en a racheté l'été dernier.
Non.
Est-ce que c'est OK?
Non. En vrai, c'est mignon quand même.
Nous, oui, c'est mignon. On fait cramer des chamallows sur le barbecue.
Ah ouais, pareil. Ça, c'est au camping avec les copains.
Genre, tu vois la scène dans Star Wars avec Anakin?
Ouais.
C'est ça. En plus, j'ai un cousin qui fait des super doublages. Il n'est pas doubleur, il devrait. Et du coup, il te double le chamallow en train de cramer en mode je me vengerai, machin, c'est hilarant.
Je suis ton père.
Non. Bon. Bon, merci beaucoup les filles d'avoir été présentes pour cette chronique. J'espère que vous êtes bien amusées. J'espère que nos auditeurs et auditrices ont passé un bon moment aussi, parce que c'est quand même le but, hein. Oui. N'est-ce pas?
Et qu'ils ont appris des choses.
Ouais, parce que pour une fois, on a dit des trucs intéressants. Enfin, tu as dit des trucs intéressants.
On a tous dit des trucs intéressants. Ouais,
nous, on a dit des trucs qui sont
utiles. Bah,
vous mourrez moins bête. Voilà.
C'est
que dire de plus? Mais enfin, bon. On espère que vous avez quand même passé un bon moment avec nous. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine émission.
Bye bye.
Ciao, ciao. Au revoir. Message in a bottle.